Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Ben, cette semaine, nous allons à nouveau rencontrer Michel Jeury. Alors, je préciserai, je vais le rappeler, qu'il est né en janvier 1934 à Razac d'Aimé, en Dordogne, évidemment, dans une famille paysanne. Alors, il va aider ses parents, il va poursuivre ses études et obtient le bac en 1952. Et dans le courant des années 50, il écrit plusieurs romans science-fiction, littéraires en général, mais qui n'auront pas beaucoup de succès, malgré le prix Jules Verne pour La Machine du Pouvoir. Puis il exerce divers métiers, instituteur, visiteur médical, représentant, et plusieurs choses en même temps. Alors en 1967, il s'installe chez ses parents dans le canton d'Issy-Jacq et se remet à écrire et terminera le manuscrit de son roman « Le temps incertain » dont on a parlé la semaine dernière. Paru l'année suivante avec dans la prestigieuse collection Ailleurs et Demain de Gérard Klein. Alors, ce livre constitue une carrière d'écrivain de science-fiction qui durera près de 20 ans après la publication de dizaines d'ouvrages. Alors, on va laisser un peu la science-fiction cette semaine. Alors, pour préciser un peu, Michel Jeury se marie en 1975, il a une fille en 1976, qui travaillera d'ailleurs avec lui plus tard. Alors, au début des années 1980, il publie Le Crêne de Fombelle, qui préfigure une évolution dans la littérature générale, et il écrit ce livre à Saint-Jean-du-Gard, où il s'est, en quelque sorte, moi je pourrais dire presque, expatrié. Alors Saint-Jean-du-Gard deviendra son territoire d'élection. Alors sa réinstallation marque aussi un tournant dans son œuvre, puisque c'est alors qu'il délaisse la science-fiction et se tourne vers le roman de terroir. Alors il y a eu l'année du Certif, comme la Vallée de la Soie, dont on reparlera peut-être, il ne quittera la région qu'en 2013. Alors, poursuivant la veine du roman de terroir à bel succès, il retourne en quelque sorte à ses racines paysannes. Jeury ne retouche à sa fiction que ponctuellement, comme par exemple Le chat venu du futur, et qui est édité en 1998, et donc, comme je disais à l'instant, c'est coécrit avec sa fille Dani. Voilà, alors donc ensuite, il y aura Le temps incertain, tout ça. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est Le temps incertain est un roman de science-fiction qui sera publié en 1973. Alors, en 1976, Soleil chaud, Poisson des profondeurs, dont on a parlé également, est publié dans la collection Ailleurs et Demain. Alors, sa production littéraire sera quand même importante. Il faut compter à peu près 80 ouvrages, pas tous, de science-fiction. Alors, marqué par le métier d'instituteur, il publiera plusieurs ouvrages concernant l'enseignement, en particulier, et par exemple, Au cabaret des oiseaux, ou Le soir du vent fou, ou L'année du certif. Alors, donc, il ira, comme je disais, il sera quand même marqué par son passage à l'éducation nationale. Alors, on va voir un de ses ouvrages qui s'intitule Au cabaret des oiseaux, qui est édité par les presses de la cité en 1993, si mes souvenirs sont bons. Voilà, en 1993, et c'est un roman qui est présenté par Janine Badam, et donc, comme je le disais, édité aux presses de la cité. Alors, il le dédie, ce livre, à Jacques Fonvielle, ce récit qui doit beaucoup à nos discussions au coin du feu, en espérant qu'il retrouvera son Périgord. Voilà, il est resté d'ailleurs très attaché au Périgord. Alors, il y a deux petites notices que je vais quand même vous donner. Voici mon berceau, ma colline enchantée, dont j'ai tant foulé la robe veloutée. Alors, c'est de Marceline, Némone Valmore. Et ensuite, un petit quatrain, je ne vous laisse point dormir en point visage des êtres trop aimés façonnés par mes mains. Je vous vois, je vous sais fidèle à ma voix, mais qu'êtes-vous sinon des visages semblables à ceux que vous portez, à ceux qui me font mal. Et c'est de Louis Aimier, et c'est tiré d'un livre qui s'intitule « Le nom du feu ». Voilà, alors il y a bien sûr une petite explication. Il y a une petite explication, alors après, voilà ce qu'on nous dit en quatrième de couverture. Après le succès de la trilogie, « Le vrai goût de la vie »,« La grâce et le venin » et « Le sort du vent fou » aux éditions Lafont, voilà, nouveau roman paysan de Michel Jeury, inspiré d'une mystérieuse affaire criminelle. « Au cabaret des oiseaux » révèle un territoire que l'auteur connaît bien, le Périgord noir, 100 ans après Jacques le Croquant. Alors, Razac d'Aimé se trouve bien évidemment dans le dans le Bergeracois, mais il a quand même apparemment une prédiction pour le Périgord noir, donc le Sarladais. Alors donc, je continue, le roman met en scène un village du Périgord noir et ses habitants bourgeois, nobles et pauvres gens dans les années 1920 et 1930. Alors Manny, l'héroïne en quelque sorte, a 10 ans quand elle commence le récit de sa vie, hantée par le souvenir de sa mère, Léa, morte mystérieusement quelques années plus tôt. Elle cherche la vérité en interrogeant les uns et les autres, son père qui tient le cabaret des oiseaux. Alors le cabaret des oiseaux, ben, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux, mais c'est parce qu'autour il y a des graminées, il y a des plantes qui ont des graines qu'apprécient beaucoup les oiseaux et qui viennent et s'en privent pas les consommer. Voilà, donc le cabaret des oiseaux, sa tante bigote et avare qui l'élève, sa cousine de la ville, le châtelaine du village et surtout Jeannot, un garçon plus âgé qu'elle, presque un homme qu'elle aime en secret. Alors, elle est à l'étrangère, fort belle et trop fragile, s'est-elle vraiment étouffée dans son sommeil? La lunatique et inquiétant facteur Darius accuse, on l'a assassinée. Manny désespère d'avoir un jour une certitude sur la mort de sa mère et commence son enquête. Alors autour de ces personnages rudes ou tendres, frustes ou fantasques, c'est le village perdu au milieu des bois qui vit tout entier au cœur d'un pays dur et secret où fleurissent aussi la tendresse et la pitié. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous donner la fin de ce roman, et je vous laisse découvrir. Alors, ce roman, c'est quand même un roman, débute ainsi, c'est un matin de juillet, peu avant les grandes vacances, on est en 1929, l'année des tours du monde, celui du Zeppelin, le dirigeable allemand, et celui du marin français, Alain Gerbeau. Je m'appelle Manny Lagrange et j'ai presque 10 ans. J'habite à Miraval, une commune boisée du Périgord noir. Maman est morte depuis longtemps et je ne me souviens pas très bien d'elle, quelquefois à peine, quelquefois un peu plus, mais c'est toujours un rêve. À part qu'il y a quelques mois, on a conduit au cimetière grand-mère Virginie qui me racontait tant d'histoires. Mon père Antoine Lagrange est très occupé par son métier de cabaretier. C'est ma tante Douce-Aimée qui s'occupe de moi à sa façon. Alors voilà la description de la tante. Elle a 45 ans, mais paraît bien plus vieille, sèche, vêtue de gris ou de bleu sombre, le chignon haut, le teint un peu jaune, les yeux comme des fentes et parfois un regard à hacher la viande. Son sourire trop mince n'efface pas la sévérité de ses traits. Elle possède un chat aussi gris, Minot, qu'elle appelle sans arrêt pour zoner une contenance. Minot, Minot. Et elle se retourne pour voir s'il la suit. Elle a ses tics, ses expressions toutes faites. Elle sort de la première occasion. De merci. C'est le bouquet. À la bonne heure, vous ne valez pas les quatre fers d'un chien. On connaît la chanson, primo, secondo et in extenso. Alors voilà, la tante, on a tous connu un peu, bon, déjà un peu comme ça. Et ça, il en existe peut-être encore quelques exemplaires. Voilà. Alors, elle a un cousin, Évariste, dit Vava, il a 12 ans, le pauvre, simple, ne sort guère de l'institution de Périgueux, où on le garde depuis des années. Quelquefois, je me dupe pour vœu qu'il ne revienne jamais. De temps en temps, je fais un vœu, à défaut d'une prière, pour qu'on nous le rende. Je crois que je l'aimais bien et que je saurais m'occuper de lui, et puis on serait deux contre tante Douce Aimée. Voilà. Alors donc, ce n'est pas toujours très agréable. Alors, il va y avoir quand même des fêtes. Il n'y a pas que des choses de tristes. Et il y a le menu. Et il y a un menu d'une fête. Alors voilà, Douce Aimée, donc la tante Minaud, elle n'en finit pas de déboutonner ses gants. Seigneur, quand je pense que nous avons failli être très à table, c'est la hantise. Alors voilà le menu, soupe aux abattis de volaille, mix sarladaise avec crouton, lardon. Alors, mix sarladaise, en principe, il n'y a pas de lardon, mais je ne connais pas toutes les variétés. Alors, crouton, lardon, petit salé, gibelotte de lapin aux oignons et aux champignons, salsifis et haricots, mange tout. En dessert, des crêpes épaisses à l'huile de noix, une tarte aux cerises et un gâteau de ville apporté par les Dorses, qui sont des invités. Ils ont déjà l'air de le regretter. Douce Aimée a annoncé une surprise à la fin du repas. Alors, la surprise, mais ça va être un mal. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, c'est pas très récent, et il y avait toujours quelqu'un qui arrivait avec une musique. Voilà. Alors, Antoine a emprunté une vielle. Il joue « Bolègue à Boudoum », c'est « Remuez-vous » pour faire danser Charlotte et son fiancé. « Fillette, remuez-vous donc, comme je disais, maintenant que vous avez un bon violon. » Et alors, les Dorses se précipitent à tourner, quelque part sur le plancher d'Ijouen, la salle à manger. Alphonsine et moi tentons notre chance. tante douce aimée me rappelle à l'ordre. Pas aujourd'hui, pas avec ta robe de communiante. Polo, le fiancé, réclame un Charleston ou une Java. Antoine est bien incapable de tirer ces airs-là de sa chabrette. Ou plutôt, non, on dirait plutôt une cabrette. La fête tourne court, la guille et la perpille regardent la grenouille de travers. Alors la grenouille nous son tablier et retourne à la cuisine. Douce aimée en profite du monde pour raconter la mort de sa jumelle. Voilà, donc voilà un peu les personnages de ce roman. Alors, bien sûr, il y a l'école, hein, l'école n'est pas abandonnée. Et puis, donc, on va parler un peu du certif, certificat d'études, qui était un diplôme à l'époque, était quelque chose d'important, surtout si on voulait rentrer dans la gendarmerie ou quelque chose comme ça. Voilà ce qu'on nous dit. Depuis 12 ans qu'il enseigne en Miraval, le maître d'école, M. Laprade, n'a connu qu'un seul échec au certificat pour cause de rhume des foins, qui aurait pu prévoir la calamité de 1931. Deux candidats qu'on est surtout à présenter, M. Laprade est au bord du suicide, le maire au bord de la démission, la faute à la politique, le régent est trop moderne. D'abord, il n'avait qu'à pas envoyer des filles au certificat, ça lui apprendra. Voilà. Alors, les filles n'étaient pas considérées comme des bonnes élèves, même si elles étaient capables d'avoir le plan, hein, comment je pourrais dire, le prix communal, et on essayait de les éviter, qu'elles ne viennent pas, ou elles étaient plutôt parmi, comment je veux dire, déclassées. Alors, je poursuis la lecture. Parmi les deux candidats, Black Boulet figure une candidate, Faustine Peyrac, sur qui tout le monde, toute la faute retombe. Quelle idée de présenter des drôlesses au certificat. Pas besoin de certificat pour faire la mique, et ni même pour tenir le ménage. Femme savante, Bubby brillante. Alors, c'est dans ce livre, je ne donnerai aucune précision là-dessus. Voilà. Alors, une résolution est votée pour demander au maître de ne plus présenter de filles les années suivantes. Marius Laprade se fâche tout rouge et décide de commencer de suite la préparation de sa championne de 1932, Germaine Lagrange, appelée aussi Bibi. On va poursuivre un petit peu. Ce livre, il n'y a pas quand même que le certificat d'études. Alors, il y a évidemment, on a vu les recettes, et puis il y a aussi des descriptions des endroits. Alors, un coucou appelle au fond des bois, des buissons éclatent de roulades, les vergnes balancent leurs chatons rougeâtres. Madame de Sévigné écrit à sa fille, si vous avez envie de savoir ce que c'est qu'un prétend, il faut venir à moi. Les longues haies au pied des ormeaux jaillissent les morilles blondes et les mousserons blancs, la douce odeur de farine, et le maître dicte, voilà. On retrouve quand même aussi un peu l'école. Évidemment, les morilles, c'est très bon, mais il faut les faire cuire, il ne faut pas les manger crues, sinon on risque d'avoir quelques petits problèmes, maux de ventre, etc. Alors, en continuant un tout petit peu, voilà ce qu'il a dit un dimanche matin, au milieu du printemps, je viens de me laver dans le cabanon de la chaudière à cochon, avant d'aller à la grand-messe à Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, ben, je pense que vous connaissez, c'est une petite bourgade sur les bords de la Dordogne, pas très loin de Sarlat. Alors, on enferme Vava, c'est le garçon un peu simple qu'ils ont fini par recueillir. Donc, quand je me lave, mais je dois me dépêcher, mon cousin finit toujours par s'échapper pour venir me lorgner par le fenestrou. Et puis, les bûches sont comptées. Et même si j'ajoute du bois mort au foyer de la chaudière, la température du cabanon est bonne 10 minutes, pas plus. Au fond, je me fiche que Vava me voit toute nue. Il a l'esprit d'un gros bébé et il est somnambule, mais sans grand vice. Tout à coup, Gaspard aboie. C'est un cornio roussâtre que la tante a pris depuis quelques mois, bien qu'elle déteste les chiens. Les gens du village ne lui cachent plus leur malveillance. Elle se sent menacée. Gaspard gronde sur un ton caverneux, presque comique. Une voix lui répond que je n'ose pas reconnaître. Bon toutou, gentil toutou, on est à nouveau dans la maison. Voilà. Mais écoutez, on va arrêter là cette lecture du cabaret aux oiseaux et je vous laisse découvrir la fin et le mystère, bien sûr, du décès du personnage principal. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne semaine, pas trop pluvieuse, et à lundi prochain.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.